Bonjour Olivier, vous êtes directeur de 3 EHPAD, vous êtes membre d'Alliance Vita et on se rencontre aujourd'hui pour parler sur la loi de l'euthanasie.
Bonjour Laurence.
Alors cette loi sur l'euthanasie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors, c'est un ensemble de feuilletons, cette loi, hein, puisque ça nous a occupé pendant toute l'année. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Et puis, il y a eu des allers-retours, ce qu'on appelle les navettes parlementaires, entre un passage à l'Assemblée nationale, une première lecture, une deuxième lecture au Sénat, puis retour en commission parlementaire, l'Assemblée nationale de nouveau et le Sénat. Et enfin, avec des désaccords qui apparaissaient à chaque fois, des réécritures de certains textes, des rejets de certains amendements, etc. Et donc ça a beaucoup évolué, ça a duré quand même plus de 6 mois. Et au final, c'est l'Assemblée nationale en dernière lecture qui a eu le vote et qui a voté la loi. Lorsque ça a été fait, donc ça c'est au mois de juillet, au milieu du mois de juillet, le soir même, le Premier ministre et d'autres personnes ont saisi le Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité du texte. Et le Conseil constitutionnel vient de rendre son avis la semaine dernière. Donc c'est un point important. Donc là, on a été au bout de l'ensemble des recours. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de promulguer la loi pour qu'elle puisse effectivement s'appliquer. Et on sait que donc la promulgation de la loi, c'est le président de la République qui le fait. On sait que Emmanuel Macron est tout à fait favorable à la loi. Il l'appelait de ses voeux, il la voulait absolument. Donc on se doute que ça va être promulgué certainement très très vite, probablement dès le retour des vacances. Donc probablement dans le cours du mois de septembre, et dès lors la loi sera applicable. Ça veut dire concrètement en France qu'on pourra commencer à euthanasier des personnes, à tuer des personnes.
Alors justement, cette loi donc qui est passée, qui va s'appliquer, qu'est-ce qu'elle prévoit exactement ?
Alors le texte en lui-même est quand même très problématique puisque on a dans ce texte la possibilité, en fait, donc c'est la possibilité de l'ouverture de l'euthanasie, hein, très clairement. Donc ça veut dire que la possibilité de soit de l'euthanasie, soit du suicide assisté. Donc on met les mots qu'on veut, comme on veut. Ce qui est certain, c'est que on a à partir de cette loi et de l'application de cette loi la possibilité pour les médecins, pour le corps médical, d'empoisonner, c'est-à-dire de donner du poison, ce qui est contraire. Enfin, un poison létal, hein, ce qui est contraire au serment d'Hippocrate. Hein, je n'administrerai pas de poison. Donc ça pose des questions évidemment éminemment éthiques. Il y a eu des débats. On a vu au travers des débats que finalement, là où on nous disait au début il y a un consensus, plus on avançait dans les débats, moins il y avait de consensus. Et aujourd'hui, concrètement, ce que ça change, c'est que demain, effectivement, les personnes vont pouvoir être euthanasiées. La grande difficulté, c'est que le pouvoir de décision est énormément concentré dans les mains d'un seul médecin. C'est-à-dire un seul médecin, d'après le texte, peut décider qu'une personne lui a fait part de sa volonté de demander l'euthanasie ou du suicide assisté, peu importe comment on le nomme, et le médecin est lui-même et seul témoin de cette demande, peut-être le seul témoin de cette demande, et peut du coup dans les 48 heures qui suivent injecter la solution létale pour que la personne décède. Il n'y a aucun contrôle, ça peut être fait en dehors de toute prévenance de la famille, ça peut être fait dans le texte, c'était prévu pour que ça puisse être fait, y compris pour les gens qui sont sous tutelle ou sous curatelle. Donc là on voit immédiatement que on cible quand même assez spécifiquement les personnes handicapées qui peuvent être visées. Et ça veut dire que quelqu'un qui, sous tutelle, ne peut pas décider dans la vie de tous les jours d'un acte, par exemple de faire un chèque, il peut par contre décider de mourir. Voilà, donc ça pose quand même question. Donc la loi, elle est quand même telle qu'elle a été votée, elle va assez loin. Et dans le projet de loi telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, il y avait aussi la suppression de l'objection de conscience. Notamment, on sait que autour dans les allers-retours, il y a eu l'intervention notamment des petites sœurs des pauvres qui disaient hein, nous, si on n'a pas l'objection de conscience, si on a l'obligation de faire des euthanasies dans nos établissements, on fermera tous nos établissements. La loi a été votée telle qu'elle. C'était sans l'objection de conscience. Et c'est le Conseil constitutionnel qui, lui, va réintroduire certaines limites, certaines mesures. Voilà, on va en reparler après.
Alors justement, le Conseil constitutionnel qui a validé la loi, il a tout de même mis quelques réserves. Lesquelles ?
Alors le Conseil constitutionnel, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il a validé la loi. Il a mis des réserves, effectivement, on va revenir dessus, elles sont importantes et on peut se réjouir de ces réserves-là, mais là où on n'a pas de raison de se réjouir, c'est qu'il a quand même validé la loi. Ça veut dire que désormais, en France, on peut tuer des gens. Le Conseil constitutionnel a mis trois réserves. Il est revenu sur trois points. Je parlais il y a quelques minutes des gens qui sont sous tutelle et curatelle. Il a mis une réserve là-dessus en disant il faudra que le tuteur ou le curateur, l'avis du tuteur ou du curateur soit pris en compte dans la décision du médecin. Alors, il faut bien entendre ce que ça veut dire. L'avis doit être pris en compte dans la décision du médecin. Ça ne veut pas dire que l'avis doit être respecté. Ça ne veut pas dire que le tuteur ou le curateur a un pouvoir de décision. C'est le médecin qui continue de décider seul, mais il doit prendre en compte son avis, l'avis du curateur. Alors c'est une limite, ça veut dire concrètement que si un curateur ou un tuteur dit non, on en a parlé avec mon protégé, il ne voulait pas, il n'était pas favorable, mais si le médecin décide de faire quand même, il pourra faire quand même. Voilà. Il n'y a pas de pouvoir réel donné au curateur ou au tuteur. C'est le médecin qui reste détenteur de ce pouvoir-là. Donc ça reste un problème. Malgré tout, il y a un petit biais qui est rentré puisqu'on a quand même pris en compte l'avis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rentre en ligne de compte, c'est la réintroduction est très 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 heureuse du droit de l'objection de conscience pour les établissements privés au nom du droit d'association et du droit religieux. Ça veut dire qu'effectivement, les établissements... Alors, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut que l'établissement comporte dans ses statuts ou dans son projet le fait qu'il ne fera pas d'euthanasie ou qu'il est orienté vers la vie jusqu'au bout. Alors, tous les établissements religieux, notamment l'ont, en général, il faut que ce soit explicitement noté. Donc, ça veut dire qu'il faudra potentiellement modifier des statuts ou des projets d'établissement en intégrant cette donnée-là. La deuxième limite, c'est qu'il faut que... ils ont fait un copier-coller de ce qui s'était fait pour l'euthanasie, pour l'avortement, pardon, un copier-coller dans le sens où ils ont dit il faut que l'établissement pourra ne pas faire d'euthanasie s'il y a localement un autre endroit où ça peut se faire. Alors ça, c'était vrai et pour l'avortement, parce que l'avortement, c'est un acte chirurgical. Donc ça, c'est les actes chirurgicaux, les avortements par chirurgie qui étaient visés. C'est compliqué d'avoir un plateau chirurgical avec un chirurgien, etc. Et il y a en plus nécessité de cet acte chirurgical dans le sens où, dans le cadre d'un avortement, il faut quand même sauver la vie de la mère. Donc c'était pour ça que l'avortement était vendu, entre guillemets, au départ. Dans le cadre de l'euthanasie, une euthanasie peut se faire n'importe où, y compris au domicile de la personne. Il faut juste faire une injection. On pourrait même imaginer que ce soit par comprimé. Donc la question, la limite qui est introduite, la réserve qui est introduite sur... Alors le Conseil constitutionnel met une réserve en disant on peut réintroduire l'objection de conscience sous réserve qu'on ait la possibilité de le faire à côté. Oui, ce sera possible dans tous les cas. Voilà, donc ça, la réserve de la réserve ne porte pas dommage au texte en lui-même. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire qu'on retrouve les établissements, les petites sœurs des pauvres, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, typiquement, tous les établissements confessionnaux peuvent dire « nous, on ne fait pas d'euthanasie ». Voilà, c'est important, je vais y revenir après, c'est très important pour les patients. Voilà, la troisième réserve qui est mise par le Conseil constitutionnel, ça concerne les pharmaciens, avec... Pour eux aussi, l'extension de l'objection de conscience donnée aux médecins et aux infirmiers, aux pharmaciens. C'est-à-dire qu'un pharmacien d'officine, demain, peut dire « moi, je refuse de fabriquer le produit létal et même je refuse de le distribuer ou de le vendre ». Voilà. Au nom de son objection de conscience, il peut le faire. Voilà. Donc ça, c'est des points importants. Mais il n'empêche que le Conseil constitutionnel, ça faut quand même bien le garder en mémoire, a validé la loi.
En parallèle de la loi sur la fin de vie, il y a eu aussi une loi sur les soins palliatifs. Alors comment on distingue ces deux lois ?
Alors effectivement, il y avait au début, ces deux lois étaient mêlées entre elles. C'était le même texte qui était prévu. Et puis le législateur, enfin, ils ont eu la bonne idée, l'heureuse idée de séparer les deux. Donc le texte pour les soins palliatifs a vraiment fait l'unanimité, il a été voté très très vite. Le texte pour l'euthanasie a été beaucoup plus long. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de débats, des allers-retours parlementaires assez nombreux, jusqu'au bout du process. Ça démontre qu'il n'y avait pas ce consensus. Maintenant, le risque, c'est que si on parle de risque par rapport à l'euthanasie et aux soins palliatifs, on sait très bien que les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont onéreux, qui demandent des moyens. Et on sait très bien aujourd'hui qu'un Français sur deux qui en aurait besoin n'ont pas accès aux soins palliatifs. Aujourd'hui, en France, un Français sur deux qui ont besoin des soins palliatifs n'y ont pas accès. Ça veut dire qu'il y a d'un côté une loi qui dit oui, on va développer, on va promouvoir les soins palliatifs. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en entend parler, qu'on nous dit on va promouvoir les soins palliatifs. Et ça fait 20, 30 ans qu'on dit il n'y a pas assez de moyens. On a une pyramide des âges aujourd'hui devant nous qui n'est pas favorable du tout avec le débit du papy-boom. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus en plus de soins palliatifs. Et clairement, il n'y a aucune raison de penser qu'on va aujourd'hui débloquer des crédits suffisants pour donner accès aux soins palliatifs à toutes les personnes qui le souhaitent. Le risque, c'est quoi ? C'est que du coup, comme on met l'euthanasie devienne un soin parmi tant d'autres et vienne souvent remplacer le soin palliatif parce qu'on n'a pas accès aux soins palliatifs. Donc ça risque aussi c'est l'un des gros problèmes et l'une des grosses hypocrisies de ces deux lois côte à côte, c'est que on voit très très vite avec la question de l'euthanasie qu'il y a un enjeu financier. Alors, il ne faut peut-être pas le dire ou il ne faut peut-être pas le nommer, mais il y a quand même un enjeu financier important derrière en termes de coût des soins. Hein, quand on s'entend dire que la dernière année de vie d'une personne âgée est l'année où elle coûte le plus cher à la sécurité sociale, quand on sait le coût d'un EHPAD, d'une place, d'une chambre d'EHPAD, que beaucoup de gens n'ont pas les moyens suffisants, donc il y a l'aide sociale en plus qui est mise, donc tout ça, c'est de l'argent de l'État qui est mis dedans. Et donc, il y aura forcément, à un moment donné, une pression financière. Parfois, c'est même les familles qui le mettent en disant « mais moi, ça me coûte cher l'EHPAD, on est obligé de vendre la maison, l'héritage est en train de disparaître ». Donc il y a aussi ce risque. Toutes les familles ne sont pas forcément bienveillantes, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il y a à plein de niveaux, il y a dans plein de domaines différents, un risque financier qui va peser sur les personnes les plus fragiles dans notre pays aujourd'hui. Et donc le risque que la solution qui soit proposée soit l'euthanasie et que même ça devienne le soin du pauvre. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez quelqu'un qui souffre d'une maladie quelconque, qui a des douleurs physiques, on lui donne de la morphine. Morphine à haute dose pour soulager la douleur. La douleur est soulagée. Très bien, parfait. On pourrait dire que d'une certaine manière, on est dans du soin palliatif, on a soulagé la douleur. Prise en charge de la douleur, parfait. Sauf que la morphine a un effet secondaire, c'est que la morphine, ça constipe. Donc quand la personne devient constipée, il faut lui donner les laxatifs. Et les laxatifs, si on ne les donne pas, la constipation peut être très douloureuse. Mais les laxatifs en France ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer ses laxatifs va souffrir. Donc on aura une possibilité de dire « mais non, mais il n'a pas les moyens, mais on l'a pris en charge, on a donné de la morphine, etc. et c'est remboursé par la sécu. » Oui, mais derrière, vous avez des effets secondaires qui, eux, impliquent l'utilisation de médicaments qui, eux, ne sont pas remboursés par la sécu. Et la personne qui n'a pas les moyens, elle fait comment ? Eh bien, on pourra revenir vers elle en lui disant « Ah ben du coup, on comprend que vous êtes encore en souffrance, donc on vous propose l'euthanasie. » Et elle n'aura peut-être pas le choix que de choisir l'euthanasie, non pas parce qu'elle le désire, mais parce qu'en fait, c'est la seule solution qui lui reste. Et c'est là le grand risque qui est aujourd'hui. On a, dans la République française, trois mots comme devise, liberté, égalité, fraternité. Alors la fraternité, avec une loi sur l'euthanasie, je ne sais pas comment on peut la vivre encore, si on considère que le plus fragile mérite d'être éliminé. L'égalité se pose aussi question. Si demain je n'ai pas les moyens d'acheter mes laxatifs pour être pris en charge par rapport à la morphine que je prends et qui m'est nécessaire, est-ce que je suis égal ? Est-ce que j'ai le droit à l'égalité de traitement, l'égalité de soins dans une France qui devient de plus en plus à double vitesse ? Est-ce que demain, parce que j'habite à la campagne et que je n'ai pas accès à des soins palliatifs, je rappelle qu'un Français sur deux n'a pas accès aux soins palliatifs alors qu'il en a besoin, est-ce que j'ai cette égalité entre tous les citoyens ? Ben non, c'est pas forcément vrai. Et donc, ça interroge aussi, on voit bien que ces deux lois, cette loi sur l'euthanasie notamment, elle interroge profondément ce qu'on appelle couramment les valeurs de la République, tout le monde en parle, sans forcément qu'on sache vraiment les définir ou en parler. Voilà. Donc pour nous, en tout cas, soignants en tant que directeur d'EHPAD, pour nous chrétiens aussi, ça interroge, ça interpelle. On se souvient que dans le décalogue, on a ce « tu ne tueras point ». Et donc aujourd'hui, que fait-on de notre frère fragile? Que va-t-on faire demain de notre frère fragile? Que va-t-on faire demain de la personne handicapée? Que va-t-on faire demain de la personne âgée? Est-ce qu'on va lui laisser le choix? Donc c'est vrai que cette question, elle ouvre, cette loi, elle ouvre quelque chose d'important. On avait fermé, la France, ça fait partie des premiers pays à fermer la question de la mort en abolissant la peine de mort. On est en train de le réouvrir, on vient de le réouvrir, la France vient de le réouvrir, donc désormais la peine de mort pourra de nouveau être appliquée pour des personnes soit qui le souhaitent, soit qui n'auront pas le choix. Voilà. C'est vraiment la crainte qu'on peut avoir. Voilà. Donc cette loi, comme je disais, le Conseil constitutionnel vient de la valider, donc elle va se mettre en œuvre, elle va se déployer, et on verra les conséquences. Hein. Il y a des conséquences sinistres et lugubres. Il y aura des inégalités, ça c'est évident. Et puis il y a un autre point qui est important, c'est que on a des gens qui l'ont déjà dit, hein. Je pense à Jean-Louis Touret notamment, qui était un des grands défenseurs de cette loi et qui poussait vraiment pour qu'elle soit votée depuis des années avec l'ADMD. Il l'a dit très clairement dans une interview ou dans une réunion. Il a dit nous n'obtiendrons pas tout dès le premier coup avec cette loi sur l'euthanasie. Il faut qu'elle soit votée. Nous aurons mis un pied dans la porte et ensuite on l'ouvrira. Ça veut dire qu'on peut s'attendre dès 2027, la prochaine session parlementaire, à de nouveaux projets de loi qui viendront demander toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on sait très bien, on le voit très bien dans les pays autour de nous, en Belgique, au Canada, etc., qu'on va toujours plus loin et qu'on ouvre. Parce que le plus fragile, aujourd'hui en France, le plus fragile, c'est la personne très âgée, c'est la personne handicapée. Mais demain, une fois qu'on aura éliminé toutes les personnes les plus âgées, toutes les personnes les plus handicapées, il y aura toujours des gens plus âgés, un peu plus jeunes que ceux d'aujourd'hui, mais ils seront toujours les plus âgés et les plus coûteux. Et la dernière année sera toujours l'année la plus chère des soins. Donc faudra toujours, on aura toujours cette tendance à repousser, repousser, repousser. Et finalement, la vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment, par rapport à mon frère malade, par rapport à mon frère handicapé, par rapport à la personne fragile, et c'est comment, par rapport à moi-même qui porte cette fragilité en moi, parce que on est tous dépendants les uns des autres, il ne faut pas se mentir, que ce soit l'enfant qui dépend de ses parents, que ce soit la personne âgée qui a besoin de soins, etc. Mais c'est aussi vrai dans un couple, l'un de l'autre, c'est aussi vrai d'une personne qui momentanément est malade, que quelqu'un qui se casse une jambe, etc., etc. À tous, les uns et les autres, à un moment dans notre vie, on a cette fragilité qui nous rattrape, on a ces besoins d'un arrêt maladie, d'une personne, d'une période difficile dans la vie, et cette fragilité-là, elle nous rattrape, elle nous rejoint. Pourquoi dans nos sociétés aujourd'hui, regarder la personne fragile, ça devient tellement compliqué qu'on préfère l'éliminer plutôt que de l'accueillir et de se reconnaître soi-même dans nos fragilités. Donc c'est vraiment toutes ces questions-là qui sont derrière cette loi, ce projet de loi, et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir continuer à nous battre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudra effectivement modifier certainement dans les EHPAD notamment, ou dans les établissements médico-sociaux, les projets de vie pour dire nous on ne veut pas faire l'euthanasie, on choisit la vie. Et puis il faut suivre les travaux parlementaires qui viendront. Et puis en tant que chrétien, il faut continuer de prier. Tout à l'heure je disais, hein, c'est dans le décalogue, tu ne tueras point. On voit très clairement, c'est assez amusant, vous savez, quand vous regardez le décalogue, au moment où Moïse descend de la montagne du Sinaï avec les tables de la loi, il arrive en bas et il retrouve le peuple d'Israël qui est en train d'adorer le veau d'or. Il casse les tables de la loi, il va falloir qu'il remonte 40 jours sur le mont Sinaï pour retrouver le deuxième jeu des tables de la loi. Et en fait, ça montre qu'il y a bien ce conflit entre Moïse qui adore Dieu sur la montagne, qui descend avec la loi de Dieu, et le peuple israélien qui s'est détourné de Dieu et qui regarde les idoles. Et en fait, c'est aussi notre combat d'aujourd'hui entre le respect de la vie, se tourner vers Dieu et essayer d'y obéir, et puis l'envie de tuer dans notre société parfois aujourd'hui, d'abandonner le plus fragile, le plus faible. Et on voit qu'on a ce combat entre le bien et le mal. Ce combat, il est vrai dans notre société, il est vrai en chacun de nous aussi. Et c'est pour ça qu'on peut aussi prier chacun d'entre nous pour aller un peu plus vers la conversion, et puis pour demander la conversion de notre société tout entière.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Olivier. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de 3 établissements pour personnes âgées dépendantes, 3 EHPAD, et que vous êtes aussi membre d'Alliance Vita. Merci beaucoup.
Merci, Laurence.